Vous écoutez toujours Radio Éthique, voici un sujet d'Audrey Scavinet.
Rabelais disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Or, l'actualité du monde valide malheureusement cette célèbre citation. Mais comme dirait aussi Edgar Morin, là où naît le chaos, naît aussi ce qui sauve. Ainsi, et pour pallier aux problèmes générés par une science désincarnée, une science sans conscience et compartimentée, souvent génératrice de chaos et de croyances, Devoska Production a choisi de produire et de distribuer sa collection Science et Conscience afin de donner à des hommes et des femmes de réflexion l'opportunité de populariser des connaissances scientifiques humanisées et révolutionnaires à bien des égards. Philippe Bobola s'inscrit dans cette catégorie de personnes que Devoska Production a choisi de filmer car il nous apporte des éclairages nouveaux et fondamentaux en déconstruisant et en reconstruisant notre vision du monde au moyen des correspondances qu'il établit entre la physique quantique et le chamanisme. Correspondances qui, il faut le dire, portent en elles le potentiel de changer à jamais notre regard sur le monde, sur nous-mêmes et sur la réalité.
Donc au départ, j'ai une formation de physicien théoricien, puis par la suite, je suis devenu biologiste. Et enfin, je suis devenu anthropologue. Donc, j'ai une triple formation. Et ce qui m'a intéressé dans l'anthropologie, c'est de trouver de nouvelles analogies, de nouvelles grilles de lecture entre ce que nous dit le summum de la pensée rationnelle et puis des cultures traditionnelles qu'on voit souvent en Occident comme des cultures irrationnelles, magiques, certes écologiques, mais leur vision du monde n'est pas toujours rigoureuse. Alors, avec des collègues anthropologues, on s'est intéressé aux cultures traditionnelles et par voie de conséquence au chamanisme, et j'y ai vu beaucoup de liens avec la mécanique quantique et un autre regard sur le chamanisme était donc possible pour moi. Donc, dans ce DVD, j'essaye de montrer que la voie chamanique et la voie scientifiques occidentales peuvent converger.
D'accord. Et quelle est la position dominante de la science sur ces questions?
De plus en plus, il y a des anthropologues qui s'ouvrent à ce lien. Il faut dire que les physiciens n'ont pas d'intérêt pour l'anthropologie et les anthropologues n'ont pas de formation et toujours de l'intérêt pour la physique. Donc il faut trouver des êtres hybrides ou traits d'union qui fassent le lien entre le monde de la science et le monde de l'anthropologie. Alors si vous voulez, on peut voir quelques aspects de la mécanique quantique et les comparer avec le chamanisme.
Vous auriez un exemple ?
Oui, on peut vous en donner plusieurs. Alors le premier exemple, c'est une propriété de la mécanique quantique. Tout objet quantique, alors on appelle objet quantique un atome, une molécule, aura toujours et simultanément une double dimension, une dimension, on va dire, matérielle et une dimension vibratoire. Le monde chamanique envisage la réalité sous un angle vibratoire. Ils disent qu'à côté du monde visible, le monde matériel, existe un monde invisible et ce monde invisible, il donne souvent des analogies avec le monde vibratoire. Un exemple, si une plante a une dimension vibratoire, cette dimension vibratoire, c'est peut-être ce qu'ils appellent l'âme de la plante. C'est-à-dire que chaque plante a une vibration qui lui est propre, ou chaque espèce de plante. Et donc, chaque espèce de plante, comme un objet quantique, existera à la fois dans sa dimension matérielle et dans sa dimension vibratoire.
Et les informations qu'elles émettent sont différentes?
Ah oui, bien sûr. Ça, on a pu l'objectiver avec des appareils. On a pu, grâce aux biophotons, qui ont été développés par le biophysicien allemand Fritz Albert Popp, et puis par des appareils russes qui ont permis la mise au point de ce qu'on appelle la médecine de l'espace. Autre chose, le monde chamanique envisage toujours la réalité comme étant double. C'est un monde bipolaire. Par exemple, on va considérer dans toutes les sociétés traditionnelles qu'il y a le monde ordinaire. Et à côté de ce monde ordinaire, et parallèle à ce monde ordinaire, il existe une autre réalité. Dans cette réalité, on trouve des esprits, des dieux, des ancêtres. Et le chaman est celui qui est capable de communiquer avec ce monde parallèle au monde ordinaire. Or, la mécanique quantique envisage des univers parallèles. Pour le comprendre, je vais introduire la notion d'état superposé. Une particule, dans notre monde classique, qui relève d'une physique classique, qu'on appelle aussi la physique newtonienne, la particule va partir d'un point A et aller vers un point B, et il y aura une seule trajectoire. Dans le monde quantique, la particule ira bien au point B, mais elle va utiliser plein de trajectoires qu'on appelle des états superposés. Par exemple, pour être encore plus concret, en physique classique, une particule sera au nord ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, alors qu'en mécanique quantique, elle sera simultanément aux quatre points cardinaux. Donc avant la mesure, la particule, elle est au nord et au sud, et à l'est et à l'ouest. Et quand on va faire une mesure, on va prendre un seul de ces états. Mais avant la mesure, la particule existe sous quatre états superposés, et à chaque état correspond une position géographique, nord, sud, est, ouest. Et donc, c'est comme si, avant la mesure, il y avait une succession pour certains d'états parallèles. Et en finalité, il y aura un seul état. Ce qui fait que les sociétés traditionnelles envisagent toujours le monde parallèle, qu'on va appeler le monde de la réalité non ordinaire, comme étant la vraie causalité de ce que nous vivons dans le monde ordinaire et visible qui est le nôtre. Et donc, là aussi, il y a un lien entre le chamanisme et la mécanique quantique.
D'accord. C'est-à-dire que eux, en fait, ils vivent avec deux ordres de réalité différents.
Tout à fait.
Et les deux ordres sont nécessaires.
Tout à fait. Parce que le chaman est celui qui, en permanence, va aller chercher les informations dans le monde de la réalité non ordinaire. Pour cela, il faudra qu'il se mette dans un état de conscience chamanique ou un état de conscience non ordinaire. Et il va aller chercher les informations dans ce monde non ordinaire qu'il ramènera dans le monde ordinaire, c'est-à-dire notre réalité, soit pour soigner un individu, soit pour soigner la collectivité. Donc le chaman établit le lien entre, on va dire, notre réalité ordinaire et la réalité non ordinaire. Certains résument ces deux réalités en disant « le chaman est le trait d'union entre le ciel et la terre ».
Non, c'est une conception qui est vraiment très différente de la nôtre. Est-ce que vous pensez qu'il nous manque quelque chose? C'est-à-dire que si nous n'avons pas de chaman dans nos communautés, passons à côté de toute une dimension quasi essentielle et nécessaire à la vie?
Oui, je le pense réellement, parce que d'une part, on s'aperçoit que ces réalités parallèles ont des incidences sur la stabilité psychique. Voilà. Les hommes des sociétés traditionnelles sont moins enfermés dans une seule réalité, sans que ça débouche sur des pathologies psychiatriques. Ensuite, ces réalités non ordinaires, d'une certaine façon, l'astrophysique la touche du doigt. Vous savez que depuis une dizaine d'années, on est passé d'un univers qui était visible à 100% à un univers qui n'est visible qu'à 5%. 95% de l'univers que les astrophysiciens étudient, voient, est invisible. Nous aussi, nous avons à composer avec des réalités invisibles et des réalités non ordinaires. Donc la notion d'univers parallèle est une conséquence très sérieuse de la mécanique quantique. Et ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est vraiment ce que les équations de la mécanique quantique nous disent. Alors une autre propriété très intéressante et qui va un petit peu justifier la vision qu'ont les chamans et qu'on voit à travers la magie, en mécanique quantique, lorsque deux particules ont été en contact, elles garderont le contact même si on les éloigne à des milliards de kilomètres. Cette propriété s'appelle l'intrication. Alors vous comprenez que la magie est basée là-dessus, c'est ce qu'on appelle la magie de proximité. Si à un moment donné, on a pu prendre un cheveu d'une personne, on peut toujours agir par le biais du cheveu sur la personne, puisqu'au départ, la personne et ses cheveux formaient une unité. Et en prenant un cheveu ou une poignée de cheveux sur cette personne, on gardera toujours le lien. Alors évidemment, il ne faut pas y voir que la magie au sens destruction, mais c'est aussi une façon de maintenir l'équilibre. La mécanique quantique nous montre la possibilité d'un monde unifié. Quand on refroidit à très très basse température un gaz, c'est comme si tous les atomes du gaz qui se comportaient d'une façon individuelle fusionnaient pour donner un seul atome géant, une sorte de réalité unitaire. Or, les sociétés traditionnelles aboutissent à cette réalité unitaire, puisque le monde des sociétés traditionnelles est un monde qui est basé sur l'unité, et l'unité, c'est la somme des complémentarités.
Et quelle est, selon vous, la place de l'homme dans la nature au regard de ce que la physique et les cultures traditionnelles vous ont appris?
Eh bien, l'homme est la clé de voûte pour établir trois équilibres. Je suis arrivé à la conclusion que les sociétés traditionnelles reposent sur trois équilibres. Le premier équilibre, c'est l'équilibre de soi à soi. Si on compare les sociétés traditionnelles avec nos sociétés, vous voyez, l'équilibre de soi à soi est mis en péril, hein. Il y a beaucoup de gens dépressifs, etc. Ensuite, il y a un équilibre de soi aux autres. Et enfin, il y a un équilibre de soi au cosmos. Et pour les sociétés traditionnelles, l'équilibre le plus important, celui qui chapeaute les deux autres, c'est l'équilibre de soi au cosmos. Puis ensuite, il y a l'équilibre de soi aux autres et enfin l'équilibre de soi à soi. Alors, l'équilibre de soi au cosmos, ça intègre l'équilibre des hommes avec le monde minéral, le monde animal, le monde végétal, mais également le monde cosmique. Et donc l'homme, il doit avoir une conscience pour maintenir ces trois équilibres en synergie. Donc un individu se doit d'être équilibré de soi à soi, de soi aux autres, parce qu'il recherche le lien avec le grand tout, le monde cosmique. Alors, par exemple, chez les Ojibwés, une ethnie qui vit en Amérique du Nord, au Canada, leur principe créateur, on va l'appeler comme ça, celui qui est à l'origine de leur monde, qu'ils appellent Kinché Manitou, il a créé un monde beau, ordonné et harmonique. Alors, leur but, c'est de rester fidèle à ce que Kinché Manitou a donné comme qualité essentielle pour équilibrer notre monde, c'est-à-dire la beauté, l'ordonnancement et l'harmonie. Et donc, ils font tout pour maintenir leur monde et le monde en général dans cet état de beauté, d'harmonie et d'ordonnancement. Alors, ils disent harmonique. Vous voyez, on utilise ce terme à la fois pour parler de proportions agréables, c'est harmonieux, ou d'une situation harmonieuse. Mais harmonique, c'est aussi un terme qu'on utilise dans le monde acoustique, dans le monde de la musique. Et donc, selon les Ojibwés, mais c'est vrai pour tous les peuples traditionnels, ils ont une mission, c'est de maintenir l'équilibre entre les différents mondes. Et s'ils arrivent à maintenir cet équilibre entre les différents mondes, ils sont équilibrés collectivement et il s'ensuit l'équilibre de soi aux autres et de soi à soi.
D'accord. Mais par quels moyens ils arrivent à être équilibrés, du soi au cosmos?
Eh ben, de soi au cosmos, alors ils ont ben, déjà ils ont un intérêt pour le monde du haut, le monde du ciel. Regardez combien de gens passent une journée sans regarder les étoiles.
Beaucoup. C'est en même temps, pour leur défense, c'est qu'on les voit presque plus maintenant.
Oui, c'est vrai, mais si on les voit plus, ça fait plus partie de nos préoccupations. Vous voyez, il y a des gens qui vont regarder une émission à la télé d'astrophysique et puis ils vont pas avoir l'envie de regarder le ciel par une belle nuit d'été et de voir les étoiles. Même en ville, on voit quelques étoiles, hein. Ils voient mieux à la campagne. Donc, comment vous dire? Ils sont persuadés que, en étant en lien avec la nature va les équilibrer. Et c'est vrai, regardez, quand vous êtes dans une forêt, vous allez mieux. Vous savez qu'en forêt, il est très rare de s'engueuler. Il y a une sorte d'apaisement, d'équilibre qui s'ensuit. Alors après, bah, ils ont leur vision qui leur est propre. Ils font des rituels. Ils essayent en permanence d'alimenter l'énergie du grand tout. Ils ont compris une chose essentielle, c'est qu'un équilibre, ça s'entretient. C'est pas donné une fois pour toutes. C'est la même chose pour la santé, vous voyez. En Occident, on considère qu'il y a deux états. Il y a l'état de parfaite santé, puis après, il y a l'état de maladie. Et on n'est pas très sensible aux conditions qui amènent un individu à passer de l'état de santé à l'état de maladie. Alors que les sociétés traditionnelles, eux, savent que chaque jour, on doit entretenir l'état de bonne santé pour éviter l'état de maladie. Mais il en est de même pour l'équilibre écologique, l'équilibre de l'homme vis-à-vis du cosmos.
J'ai une question par rapport à nos sociétés occidentales. C'est-à-dire que si, pour que le monde aille mieux, comment faire si eux passent par cet équilibre du soi au cosmos et que nous n'avons pas du tout ce genre de rituel, ni cette culture, est-ce que vous pensez, puisque c'est les Occidentaux un petit peu qui ont la main mise avec entre autres le concept du développement durable, etc., sur comment est-ce que l'on va achever une certaine transition et si tout ça en fait n'est que un petit peu une sorte de poudre aux yeux, parce que ce que vous dites des sociétés traditionnelles, c'est carrément, il y a un lien qui dépasse, on va dire, les concepts ou les idées que les hommes peuvent élaborer en ce qui concerne le bien-être de cette planète. Est-ce que dans ce cas, on passerait à côté de l'équilibre nécessaire pour rétablir l'harmonie sur cette planète en ignorant les manières de faire des cultures traditionnelles?
Oui, ben, ils ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Alors, comment vous dire, en étudiant les sociétés traditionnelles, n'importe quelle société traditionnelle, on s'aperçoit que leur comportement est dicté par la compréhension des lois du vivant et les lois de la nature. Or, nous n'avons pas une compréhension des lois du vivant et des lois de la nature, ou si nous l'avons, on l'a mis à la disposition de scientifiques, mais elle n'irradie pas nos vies. Je vais prendre un exemple, par exemple, si on est persuadé que la nature a un esprit, une âme. Bah, on est quand même moins tenté de dégrader la nature. Vous comprenez? Donc l'animisme, qui est une façon de réenchanter le monde, c'est une façon aussi de comprendre qu'entre un homme, une plante ou un animal, il y a une grande proximité. Il y a une grande proximité, ne serait-ce que dans la structure des atomes, des molécules, etc. Après, évidemment, il n'y a pas forcément la pensée qu'on trouve chez l'homme dans la plante, mais la plante est, d'une certaine façon, un être proche des hommes, a une petite forme de conscience. Elle réagit à des stimuli, etc. Donc, nous, comme on a perdu la compréhension des lois du vivant, on ne respecte plus la nature, et même, c'est encore plus grave, on crée des comités d'éthique. L'éthique et la déontologie intervient quand il n'y a plus de lien. Donc, eux, leur vision du monde est simple. On a reçu en héritage un monde, je reprends l'exemple des Ojibwés, beau, ordonné et harmonique, et il faut, pour qu'on puisse continuer à vivre, maintenir le monde dans sa beauté, dans son ordre et dans son harmonie. Regardez le monde industriel dans le monde occidental n'a fait que créer du désordre, de la laideur, et c'est loin d'être harmonieux. Donc, les sociétés traditionnelles ont basé leur fondement social sur la compréhension des lois de la matière et des lois du vivant, Et si on veut comprendre les sociétés traditionnelles au-delà du fait qu'elles sont plus écologiques que nous et que c'est un peu un mode sociétal qui est en voie de disparition, c'est dommage, mais le progrès va les balayer, on devrait les considérer comme des gens qui ont mis sur le socle de leur fondement de société les lois de la matière et les lois du vivant. Ce qui fait que les sociétés traditionnelles, pour bien comprendre leur logique, c'est plus une logique proche des physiciens, de la physique moderne, que d'une logique proche de la chimie. Vous voyez, parce que le monde de la mécanique quantique et de la physique moderne envisage la matière, la vibration, envisage des propriétés qu'ils utilisent quotidiennement. Et on devrait considérer les sociétés traditionnelles comme l'équivalent du CERN, c'est-à-dire des sociétés qui ont mis en application les lois de la physique et les lois du vivant, qui en ont fait une spiritualité, une philosophie, un mode d'être, d'agir et de penser. Et on devrait les considérer comme complémentaires de nos sociétés. Et nous, on devrait amener ces sociétés traditionnelles à avoir confiance en leurs fondements, fondements qui rejoignent la science moderne. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus cette fracture des civilisations, ce choc des civilisations. C'est-à-dire que les sociétés traditionnelles pourraient nous aider à passer ce cap difficile pour le monde occidental. Et le monde occidental, prenant conscience que le monde traditionnel peut l'aider, permettrait à ce monde traditionnel de renforcer sa confiance envers l'héritage culturel de leurs ancêtres. Moi, je suis arrivé à la conclusion que ces sociétés, loin d'être, comme on l'a cru au début de l'anthropologie, primitive, infantile, arriérée, etc., etc., on n'en est plus là maintenant, heureusement, ces sociétés ont presque décidé de ne pas prendre la voie du progrès parce qu'ils avaient compris que le progrès dénaturait l'homme. Et c'est vrai, quand on regarde l'histoire de l'Occident, l'Occident a perdu le lien avec la nature, on finit par vivre en ville, on n'est plus du tout en lien avec le ciel, c'est les étoiles qu'on évoquait. Le monde végétal, on le comprend peu. Il y a des spécialistes, des botanistes, des spécialistes de la physiologie végétale. Le monde minéral, c'est confié à des géologues ou à des cristallographes. Et quant au monde animalier, il est confié aux vétérinaires ou aux zoologues. Et donc, les sociétés traditionnelles ont quelque chose à nous apprendre, c'est que dans une société traditionnelle, n'importe quel individu comprend tous les rouages de sa société. C'est-à-dire que n'importe qui peut comprendre les techniques de chasse, comment fonctionne le chamanisme, etc. Bien évidemment, il le fera moins bien que l'espère, le chaman, mais il pourra comprendre tous les rouages de la société. Or, dans nos sociétés occidentales, on ne comprend pas les différents rouages de la société dans laquelle on vit. Déjà, pour la plupart des gens, les recherches en physique, en biologie sont incompréhensibles. Quand notre voiture est en panne, la plupart des gens ne peuvent pas la réparer. On est obligé de déléguer. Et en déléguant nos vies à des politiciens, à des économistes, etc., etc., on voit bien que ça crée une angoisse. Et il n'y a pas cette notion de compréhension et d'unité. Or, cette compréhension, elle est nécessaire. Un animal, s'il ne se sent pas sécurisé dans un endroit, il va mal dormir. Notre cerveau d'occidental, généralement, il est insécurisé parce qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on est. La plupart des gens, que ce soit dans n'importe quel pays européen, il y a l'angoisse du lendemain, de l'avenir, on ne comprend plus l'économie, on a l'impression que notre pensée analytique est en faillite. Autre chose, les sociétés traditionnelles nous ont montré que plutôt que de développer des analystes, il fallait développer des généralistes, des gens qui voient les choses dans leur vision complète à 360 degrés. Alors cette critique, elle a été déjà donnée par des penseurs, notamment l'Irlandais George Bernard Shaw, écrivain et dramaturge, qui disait « À force de connaître tout sur rien, ce qui est le cas du spécialiste, on finit par connaître rien sur tout. » Et vous avez des gens, ils sont spécialisés dans un tout petit domaine, parce qu'ils sont spécialisés dans un tout petit domaine, cette société analytique leur accorde un pouvoir, et en dehors de ce petit domaine, ils sont d'une ignorance encyclopédique. Nous, nous proposons une grille de lecture où la science la plus en pointe peut rejoindre la tradition la plus ancienne.
De la physique moderne ou chamanisme, c'est donc 49 minutes de témoignage filmé où Philippe Bobola bouleverse notre représentation du monde pour nous permettre enfin de le comprendre de façon plus entière et plus vraie.
C'était un sujet réalisé par Audrey Scavini.